RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Bolivie, une terre multiculturelle, une terre indigène où se mélangent les cultures et les traditions. Quechua, Aymara, Guarani, Guarayo, le président Evo Morales a même changé le nom du pays à son arrivée en État plurinational de Bolivie. Mais il y a une communauté qu'on a oubliée dans le pays andin, la communauté juive. Ils ne sont que quelques centaines aujourd'hui. Pourtant, les Juifs ont été plusieurs milliers en Bolivie. La communauté se réduit chaque jour un peu plus et il est bien difficile de vivre sa judéité dans ce pays. La communauté juive, les oubliés de Bolivie, c'est un grand reportage signé Alice Campignol.
Nous sommes à la commémoration de l'Holocauste à La Paz, au milieu des montagnes de l'Altiplano. Sur la place des Nations Unies sont réunies une soixantaine de personnes pour rendre hommage aux victimes des camps de concentration et brandir le message « Nosotros los recordamos », nous nous rappelons de vous. Il n'y a pas de survivants dans l'assistance. Tous sont désormais trop âgés pour assister à la cérémonie, mais leurs enfants ont répondu à l'appel, comme Monica, venue témoigner de la vie de ses parents.
Mon père, Jacob Blanquitny, est un survivant de l'Holocauste, du camp de la mort d'Auschwitz. Il est arrivé après la guerre à Oruro, où il avait un oncle. Ensuite, il a connu ma mère, Erika, qui est née à Tarija et dont les parents s'étaient enfuis avant la guerre. Ils s'étaient enfuis d'Autriche et d'Allemagne. Ils se sont ensuite installés à Tarija.
Monica fait partie des quelques centaines de Juifs sur 10 millions d'habitants vivant en Bolivie. Le pays compte seulement trois communautés juives, une à La Paz, une à Cochabamba et la plus importante à Santa Cruz de la Sierra. Communautés qui se réduisent de jour en jour. Ricardo Hudler, le président du cercle israélite de La Paz, explique le phénomène.
Y en la actualidad debemos decir que somos 500. Y somos 500 personas, no 500 familias.
Aujourd'hui, nous sommes 500. Et attention, 500 personnes, pas 500 familles. Nous avons des communautés à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz.
La Paz, por ejemplo, es una comunidad que demográficamente no tiene juventud.
La Paz, par exemple, est une communauté qui, démographiquement, n'a pas de jeunesse. Les jeunes sont partis et ne sont pas revenus. Pour vous expliquer, aujourd'hui j'ai un fils qui vit et travaille en Israël, mon aîné qui est né en Allemagne. Le second, qui est aussi né en Allemagne, vit, s'est établi et travaille au Panama. Et ma fille qui, elle, est née en Bolivie, vit, travaille et s'est établie à New York. Alors une des plus grandes tristesses que peut vivre aujourd'hui une famille juive à La Paz est que nous restons seuls. Nos enfants sont partis et nous, nous devons voyager en dehors du pays pour connaître nos belles-filles, nos petits-enfants, pour être avec notre propre famille.
A nueras, a conocer a nietos, a estar con la familia afuera.
Le rabbin de La Paz, Luis Brandis, lui-même n'est pas bolivien, car ici, pas d'école rabbinique. Il a fallu le faire venir d'un pays voisin.
Je viens de Buenos Aires, en Argentine. Je suis installé ici depuis 7 ans maintenant. Au cours des dernières décennies, la Bolivie a dû recourir à des rabbins et des séminaristes qui venaient d'Argentine, car c'est le pays le plus proche et le pays qui a la communauté juive la plus importante. Ici, il n'y a jamais eu d'école ou d'académie rabbinique, ni même de formation pour devenir rabbin. Il a donc fallu, ici à La Paz, comme à Cochabamba et Santa Cruz, faire venir des rabbins qui ne sont pas de Bolivie. Il y a bien eu un collège israélo-bolivien, mais il n'existe plus. Il a été vendu il y a quelque temps. Mais quoi qu'il en soit, il n'était pas spécialisé dans la formation de rabbins ou de religieux.
Nous sommes dans la seule synagogue de La Paz, au premier étage du cercle israélite, un bâtiment qui ne paye pas de mine dans le quartier Obrajes. L'endroit est sobre et ne peut accueillir qu'une quarantaine de personnes. Mais une quarantaine de personnes, c'est bien suffisant pour le quotidien du lieu.
Los rezos de, digamos, semanales, tenemos unas 15 personas, en viernes a la noche 20, en sábado a la mañana también 15 personas.
Les jours de semaine, il y a une quinzaine de personnes ici. Le vendredi soir, ils sont 20 et le samedi matin, ils sont aussi une quinzaine. Cela représente entre 10 et 20% de la communauté. C'est un pourcentage normal, 10 ou 15%. On voit ça partout dans le monde. Le problème, c'est qu'à Buenos Aires, 10% cela représente 1000 personnes, alors qu'ici, nous ne sommes que 15 ou 20. Le jour où nous avons le plus de monde, c'est le jour de Yom Kippour, le jour du pardon. Nous avons aussi créé une journée du souvenir des soldats tombés pendant les guerres en Israël. Et ce jour-là, il y a à peu près 200 personnes qui viennent, que ce soit des voyageurs israéliens ou des gens de la communauté, pour se recueillir à la veille de la fête d'indépendance d'Israël. Nous nous souvenons de tous ces soldats morts pour défendre l'État d'Israël. Donc ces deux journées avec le Yom Kippour sont les jours où la synagogue est la plus remplie.
Israël, esos son ese día con el día de Kippour son los días que más gente tenemos aquí en la sinagoga.
Une communauté réduite en somme. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi de la communauté juive en Bolivie. Et il faut aller aux archives de la Comibol, la corporation minière bolivienne, dans la ville de El Alto, à la périphérie de La Paz, pour découvrir que les Juifs ont été beaucoup plus nombreux à une époque. Et il faut aller aux archives de la Comibol, la corporation minière bolivienne, dans la ville de El Alto, à la périphérie de La Paz, pour découvrir que les Juifs ont été beaucoup plus nombreux à une époque. Des rayonnages entiers d'archives sur des dizaines de mètres. Nous sommes dans les sous-sols de la Comibol et parmi ces centaines de mètres de documents, une histoire incroyable a été mise à jour, celle de Maurice Hochschild. Connu pour être l'un des trois barons de l'étain avec Patiño et Aramayo, grand entrepreneur minier des années 30, tous les Boliviens le connaissent encore aujourd'hui. Mais ce que l'on ne savait pas, c'était son rôle dans le sauvetage de milliers de juifs. Carola Campos est archiviste à la Comibol.
Ça, c'est un registre qui prouve qu'il y a eu des travailleurs dans les entreprises d'Hochschild qui arrivaient d'Europe. Des travailleurs qui fuyaient la Seconde Guerre mondiale.
Des contrats de travail, documents de l'immigration, copies de papiers d'identité, ces archives sont un véritable trésor et laissent apparaître une nouvelle facette du baron de l'étain, jusqu'ici connu seulement pour avoir été un entrepreneur impitoyable.
Il a fait en sorte de sauver des milliers de personnes de l'Holocauste en les faisant venir jusqu'en Bolivie et en trouvant du travail pour eux. Il leur a donné des emplois, des maisons, il a cherché à leur donner une vie digne en somme.
Un travail de juste resté secret pendant des dizaines d'années et d'autant plus secret que les archives de l'entreprise avaient été oubliées, laissées à l'abandon. Mais aujourd'hui, elles vivent une seconde jeunesse, elles ont été littéralement sorties des poubelles et elles connaissent désormais une renommée internationale car ces documents ont été classés en décembre dernier Mémoire du monde à l'UNESCO, grâce notamment au travail de Ramirez Santier Esteban, dirigeant de la Comibol.
La documentation que se tiene es Son gestos de varias series documentales, es lo que se pudo salvar.
La documentation dont nous disposons, c'est tout ce que nous avons pu sauver. Il y a des papiers administratifs, de la documentation comptable, technique aussi, des procès-verbaux. Nous n'avions même pas l'intention de les rendre publics. Nous n'avions pas idée que ces papiers avaient de la valeur. Pour nous, évidemment, ils avaient une valeur de recherche, mais une valeur universelle, que ce soit vraiment les derniers documents dans le monde sur ce thème, nous n'avions vraiment pas idée.
Les uniques papiers qui restent dans l'univers sur ce thème, ni siquiera nos imaginábamos.
Il reste désormais à étudier en détail l'ensemble de ces documents, les traduire par exemple, car certains sont en français, en allemand, d'autres même en hébreu. Et la corporation minière manque de ressources humaines et économiques pour un tel travail. Mais selon les informations collectées jusqu'ici, il y aurait eu plus de 10 000 juifs en Bolivie dans les années 30 et 40. De 10 000 à 500 aujourd'hui, que s'est-il passé en quelques décennies? C'est l'une des questions que s'est posée Robert Brockmann, qui travaille aux Nations Unies à La Paz. Il prépare un livre sur le baron de l'Étain Hochschild et le gouvernement de l'époque.
La capacidad física de un país como Bolivia en 1930 y 40, en esas décadas.
Pour un pays comme la Bolivie, dans les années 30 et 40, c'était impossible d'assimiler un aussi grand nombre de personnes. C'était au-delà de sa capacité. Donc ceux qui sont arrivés ont survécu comme ils pouvaient. Ceux qui ont eu la possibilité ont fait leur vie ici, ce qui est merveilleux. Mais ceux qui n'ont pas pu, qui ont cherché une meilleure opportunité, eh bien, ils sont partis. Il faut savoir que les Juifs qui arrivaient ici, surtout ceux d'Europe centrale, étaient des gens très éduqués. Nous parlons de médecins, d'avocats, de chefs d'orchestre, de musiciens, ingénieurs. Il y avait aussi des commerçants et des gens moins éduqués. Oui, c'est certain, dans toute cette masse, il y avait toutes sortes de personnes. Mais en tout cas, il était impossible de demander à ces gens, à des citadins éduqués dans des universités, de se dédier à l'agriculture.
Mais on ne pouvait pas demander à cette gente qui était basiquement urbaine, éduquée dans les universités, dédicarse à l'agriculture.
La Bolivie a ouvert ses portes en grand, un geste qu'aucun membre de la communauté juive n'est prêt à oublier. A révélé également que les centaines et centaines de visas boliviens accordés aux Juifs d'Europe n'ont pas été délivrés seulement par générosité et mansuétude. Il y a une version moins brillante de l'histoire. Robert Brockmann.
Muchísimas de las visas que se le otorga a los judíos cuando llegan.
Beaucoup de visas délivrés aux Juifs qui arrivaient l'ont été dans un climat de corruption, une corruption très répandue chez les fonctionnaires de la chancellerie bolivienne, une véritable chaîne de corruption depuis le corps consulaire en Europe jusqu'à la chancellerie elle-même. Ce constat, c'est très embarrassant. Que penser de ces corrompus qui ont profité de toutes ces personnes qui voulaient sauver leur peau? Mais quand on demande aux descendants de ceux qui sont venus jusqu'ici, ils disent « ce n'est pas grave, ce n'est pas important si nous devions payer ce qu'ils demandaient. Nous étions prêts à tout pour sauver nos vies. Même ces fonctionnaires corrompus, nous les remercions. »
Si teníamos que pagar lo que fuera necesario y estábamos dispuestos a hacerlo con tal de salvar nuestra vida. Entonces, incluso a esos corruptos les estamos agradecidos.
Et ce n'est pas le seul paradoxe de la Bolivie de l'époque, car le pays, en plus d'accueillir des milliers de personnes fuyant l'Holocauste, a, quelques années après, ouvert ses portes à un protagoniste de la Seconde Guerre mondiale, tristement connu en France, Klaus Barbie, connu également ici en Bolivie sous le nom de Klaus Altman. Ricardo Hudler, du Cercle israélite, se rappelle de cette période.
Beate Klarsfeld
est venue jusqu'ici. Elle s'est enchaînée à une banque de l'avenue principale et à partir de là, on a su que Altman était ici. Enfin, je voudrais préciser que les gens de la communauté savaient déjà qui était Altman, et une de ces personnes, je le dis modestement, c'était ma mère. Quand nous passions à côté de Barbie, nous crachions dessus. Je vous dis la vérité, et nous le faisions sans crainte. Pourquoi ? Parce qu'il savait que s'il faisait quoi que ce soit, ça lui retomberait dessus. Et finalement, ça lui est retombé dessus. Est arrivé ce moment où il a été découvert. Il ne faut pas oublier que la majeure partie des nazis qui se sont échappés ont pu survivre grâce au soutien de plusieurs gouvernements. Ici, à l'époque du général Banzer, Barbie a travaillé et a formé des groupes paramilitaires au sein du ministère de l'Intérieur.
Mais aujourd'hui, une grande partie de la communauté juive de l'époque est partie. L'époque de Beate Klarsfeld poursuivant les nazis semble lointaine. Mis à part ceux qui se rappellent, comme Ricardo Hudler, il reste peu de souvenirs de cette présence, à part peut-être un musée juif. Un musée en pleine jungle à Charubamba, à 3 heures de route de La Paz. Un musée dont il est difficile de trouver l'accès tant il a été lui aussi oublié. Pourtant, il a été construit très récemment, en 2014. C'est là-bas, à Charubamba, que se sont installées pendant la guerre quelques familles juives venues chercher refuge en Bolivie. Don Javier nous explique.
Quand Hochschild est arrivé ici, le lieu s'appelait Bonne Terre. Ça a été son premier nom. Ensuite, ils l'ont appelé Socobo, qui signifie Société colonisatrice de Bolivie, une fois que tous les Juifs avaient émigré. Donc, ce que voulait faire Rothschild, c'était produire plus de café. Ici, il voulait des cultures de café et de coca, ces deux produits. Dans le musée sont présentés les Juifs, qui étaient en Bolivie en général, et plus précisément ceux qui vivaient ici, à Charubamba. Vers 1941, ils sont tous partis.
Et les Juifs qui ont vécu nettement en Charubamba. En 1941, plus ou moins, ils sont tous partis.
Le musée est composé de 3 pièces seulement. Il résonne et le parquet craque, il n'y a aucun visiteur. Et il n'y a d'ailleurs personne pour se charger de l'accueil si jamais des touristes venaient à s'aventurer jusqu'ici. Le musée juif de Charubamba est un musée déjà oublié, oublié comme cette communauté juive qui vit toujours ici, en Bolivie, mais qui chaque jour se réduit. La communauté juive, les oubliés de Bolivie, un grand reportage d'Alice Campagnol, réalisation Sandrine Straram.